Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux. Première partie, du système de Descartes et de l'hypothèse de Monsieur de Buffon. Chapitre 4, que dans la supposition où les animaux seraient tout à la fois purement matériels et sensibles, ils ne sauraient veiller à leur conservation s'ils n'étaient pas encore capables de connaissance. Il est impossible de concevoir que le mécanisme puisse seul régler les actions des animaux. On comprend que l'ébranlement donné aux sens extérieurs passe aux sens intérieurs, qu'il s'y conserve plus ou moins longtemps, que de là il se répand dans le corps de l'animal et qu'il lui communique du mouvement. Mais ce n'est encore là qu'un mouvement incertain, une espèce de convulsion. Il reste à rendre raison des mouvements déterminés de l'animal, de ces mouvements qui lui font si sûrement fuir ce qui lui est contraire et rechercher ce qui lui convient. Et c'est ici que la connaissance est absolument nécessaire pour régler l'action même du sens intérieur et pour donner au corps des mouvements différents suivant la différence des circonstances. Monsieur de Buffon ne le croit pas, et s'il y a toujours eu du doute à ce sujet, il se flatte de le faire disparaître et même d'arriver à la conviction en employant les principes qu'il a établis. Il distingue donc deux choses du sens, les unes relatives à la connaissance, le toucher, la vue, les autres relatives à l'instinct, à l'appétit, le goût, l'odorat. Et après avoir rappelé ces ébranlements, il reconnaît que le mouvement peut être incertain lorsqu'il est produit par les sens qui ne sont pas relatifs à l'appétit. Mais il assure, sans en donner aucune raison, qu'il sera déterminé si l'impression vient des sens de l'appétit. Il assure par exemple que l'animal, au moment de sa naissance, est averti de la présence de la nourriture et du lieu où il faut la chercher par l'odorat lorsque ce sens est ébranlé par les émanations du lait. C'est en assurant tout cela qu'il croit conduire son lecteur à la conviction. Il n'est que trop ordinaire aux philosophes de croire satisfaire aux difficultés lorsqu'ils peuvent répondre par des mots qu'on est dans l'usage de donner et de prendre pour des raisons. Tels sont instinct, appétit. Si nous recherchons comment ils ont pu s'introduire, nous connaîtrons le peu de solidité des systèmes auxquels ils servent de principe. Pour n'avoir pas su observer nos premières habitudes jusque dans l'origine, les philosophes ont été dans l'impuissance de rendre raison de la plupart de nos mouvements, et on a dit « ils sont naturels et mécaniques ». Ces habitudes ont échappé aux observations, parce qu'elles se sont formées dans un mets où nous n'étions pas capables de réfléchir sur nous. Telles sont les habitudes de toucher, de voir, d'entendre, de sentir, d'éviter ce qui est nuisible, de saisir ce qui est utile, de se nourrir, ce qui comprend les mouvements les plus nécessaires à la conservation de l'animal. Dans cette ignorance, on a cru que les désirs qui se terminent aux besoins du corps diffèrent des autres par leur nature, quoiqu'ils n'en diffèrent que par l'objet. On leur a donné le nom d'appétit et on a établi comme un principe incontestable que l'homme qui obéit à ses appétits ne fait que suivre l'impulsion du pur mécanisme ou tout au plus d'un sentiment privé de connaissance. Et c'est là sans doute ce qu'on appelle agir par instinct. Aussitôt, on infère que nous sommes à cet égard tout à fait matériels, et que si nous sommes capables de nous conduire avec connaissance, c'est qu'outre le principe matériel qui appète, il y a en nous un principe supérieur qui désire et qui pense. Tout cela étant supposé, il est évident que l'homme veillerait à sa conservation, quand même il serait borné au seul principe qui appète. Par conséquent, on peut priver les bêtes de connaissance et concevoir cependant qu'elles auront des mouvements déterminés. Il suffit d'imaginer que l'impression vient des sens de l'appétit, car si l'appétit règle si souvent nos actions, il pourra toujours régler celles des bêtes. Si l'on demande donc pourquoi l'action de l'œil sur le sens intérieur ne donne à l'animal que des mouvements incertains, la raison en est claire et convaincante. C'est que cet organe n'est pas relatif à l'appétit. Et si l'on demande pourquoi l'action de l'odorat sur le sens intérieur donne au contraire des mouvements déterminés, la chose ne souffre pas plus de difficultés, c'est que ce sens est relatif à l'appétit. Voilà, je pense, comment s'est établi ce langage philosophique, et c'est pour s'y conformer que M. de Buffon dit que l'odorat n'a pas besoin d'être instruit, que ce sens est le premier dans les bêtes, et que seul il pourrait leur tenir lieu de tous les autres. Il me semble qu'il en aurait jugé tout autrement s'il avait appliqué à l'odorat les principes qu'il adopte en traitant de la vue, c'était le cas de généraliser. L'animal, suivant ses principes, voit d'abord tout en lui-même, parce que les images des objets sont dans ses yeux. Or, M. de Buffon conviendra sans doute que les images tracées par les rayons de lumière ne sont que des ébranlements produits dans le nerf optique, comme les sensations de l'odorat ne sont que des ébranlements produits dans le nerf qui est le siège des odeurs. Nous pouvons donc substituer les ébranlements aux images, et raisonnant sur l'odorat comme il a fait sur la vue, nous dirons que les ébranlements ne sont que dans le nez, et que par conséquent l'animal ne sent qu'en lui-même tous les objets odoriférants. Mais, dira-t-il, l'odorat est dans les bêtes bien supérieur aux autres sens. C'est le moins obtus de tout. Cela est-il donc bien vrai? L'expérience confirme-t-elle une proposition aussi générale? La vue n'a-t-elle pas l'avantage dans quelques animaux, le toucher dans d'autres, etc.? D'ailleurs, tout ce qu'on pourrait conclure de cette supposition, c'est que l'odorat est de tous les sens celui où les ébranlements se font avec le plus de facilité et de vivacité. Mais, pour être plus faciles et plus vifs, je ne vois pas que ces ébranlements en indiquent davantage le lieu des objets. Des yeux qui s'ouvriraient pour la première fois à la lumière ne verraient-ils pas encore tout en eux, quand même on les supposerait beaucoup moins obtus que l'odorat le plus fin? Cependant, dès qu'on se contente de répéter les mots « instinct »,« appétit » et qu'on adopte à ce sujet les préjugés de tout le monde, il ne reste plus qu'à trouver dans le mécanisme la raison des actions des animaux. C'est aussi là que M. de Buffon va la chercher. Mais il me semble que ces raisonnements démontrent l'influence de ces principes. J'en vais donner deux exemples. Ayant supposé un chien qui, quoique pressé d'un violent appétit, semble n'oser toucher et ne touche point en effet à ce qui pourrait le satisfaire, mais en même temps fait beaucoup de mouvements pour l'obtenir de la main de son maître, il distingue trois ébranlements dans le sens intérieur de cet animal. L'un est causé par le sens de l'appétit, et il déterminerait, selon M. de Buffon, le chien à se jeter sur la proie. Mais un autre ébranlement le retient, c'est celui de la douleur des coups qu'il a reçus pour avoir voulu d'autres fois s'emparer de cette proie. Il demeure donc en équilibre parce que ces deux ébranlements, dit-on, sont deux puissances égales, contraires, et qui se détruisent mutuellement. Alors un troisième ébranlement survient, c'est celui qui est produit lorsque le maître offre au chien le morceau qui est l'objet de son appétit. Et comme ce troisième ébranlement n'est contrebalancé par rien de contraire, il devient la cause déterminante du mouvement. Je remarque d'abord que si c'est là, comme le prétend M. de Buffon, tout ce qui se passe dans ce chien, il n'y a en lui ni plaisir, ni douleur, ni sensation. Il n'y a qu'un mouvement qu'on appelle ébranlement du sens intérieur matériel et dont on ne saurait se faire aucune idée. Or, si l'animal ne sent pas, il n'est intéressé ni à se jeter sur la proie, ni à se contenir. Je conçois, en second lieu, que si le chien est poussé par une boule, par deux forces égales et directement contraires, il resterait immobile et qu'il commencerait à se mouvoir lorsque l'une des deux forces deviendrait supérieure. Mais avant de supposer que ces ébranlements donnent des déterminations contraires, il faudrait prouver qu'ils donnent chacun des déterminations certaines, précaution que M. de Buffon n'a pas prise. Enfin, il me paraît que le plaisir et la douleur sont les seules choses qui puissent se contrebalancer et qu'un animal n'est en suspens ou ne se détermine que parce qu'il compare les sentiments qu'il éprouve et qu'il juge de ce qu'il a à espérer ou de ce qu'il a à craindre. Cette interprétation est vulgaire, dira M. de Buffon, j'en conviens, mais elle a du moins un avantage, c'est qu'on peut la comprendre. Les explications qu'il donne des travaux des abeilles en fourniront un second exemple. Elles n'ont qu'un défaut, c'est de supposer des choses tout à fait contraires aux observations. Je lui accorde que les ouvrages de 10 000 automates seront réguliers, comme il le suppose, pourvu que les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, que dans tous les individus, la forme extérieure et intérieure soit exactement la même. Deuxièmement, que le mouvement soit égal et conforme. Troisièmement, qu'ils agissent tous les uns contre les autres avec des forces pareilles. Quatrièmement, qu'ils commencent tous à agir au même instant. Cinquièmement, qu'ils continuent toujours d'agir ensemble. Sixièmement, qu'ils soient tous déterminés à ne faire que la même chose et à ne la faire que dans un jeu donné et circonscrit. Mais il est évident que ces conditions ne seront pas exactement remplies si nous substituons 10 000 abeilles à ces 10 000 automates, et je ne conçois pas comment M. de Buffon ne s'en est pas aperçu. Est-il si difficile de découvrir que la forme extérieure et intérieure ne saurait être parfaitement la même dans 10 000 abeilles qu'il ne saurait y avoir dans chacune un mouvement égal et conforme des forces pareilles, que ne naissent pas et ne se métamorphosant pas toutes au même instant, elles n'agissent pas toujours toutes ensemble et qu'enfin, bien loin d'être déterminées à n'agir que dans un lieu donné et circonscrit, elles se répandent souvent de côté et d'autre? Tout ce mécanisme de M. de Buffon n'explique donc rien. Il suppose au contraire ce qu'il faut prouver. Il ne porte que sur les idées vagues d'instinct, d'appétit, d'ébranlement, et il fait voir combien il est nécessaire d'accorder aux bêtes un degré de connaissance proportionné à leurs besoins. Il y a trois sentiments sur les bêtes. On croit communément qu'elles sentent et qu'elles pensent. Les scolastiques prétendent qu'elles sentent et qu'elles ne pensent pas, et les cartésiens les prennent pour des automates insensibles. On dirait que M. de Buffon, considérant qu'il ne pouvait se déclarer pour l'une de ses opinions sans choquer ceux qui défendent les deux autres, a imaginé de prendre un peu de chacune, de dire avec tout le monde que les bêtes sentent, avec les scolastiques qu'elles ne pensent pas, et avec les cartésiens que leurs actions s'opèrent par des lois purement mécaniques.